consensus. On doit continuer de protéger les terres agricoles. Pour certains, comme Jacinthe Gagnon, présidente de l'UPA de la capitale nationale, peu de changements sont pensables.
Les terres agricoles sont encore perçues comme un espace en attente de développement. Ça m'attriste parce que moi, je ne relève sur l'entreprise et les décisions qui sont prises, les gens qui vont vivre avec les conséquences, ce sont nos jeunes. La mission première, puis ce qui avait été pensé à l'époque par M. Garon, qui était ministre de l'Agriculture, c'est d'avoir une loi forte qui a du mordant et qui va faire en sorte qu'on va cesser de prendre le territoire agricole comme un espace en attente de développement. Donc, il faut que cette loi-là, elle demeure. Parce que je crois, je travaille étroitement et beaucoup en partenariat avec le monde municipal. Quand les décisions deviennent des enjeux économiques pour le monde municipal, la première priorité, ce n'est pas de protéger le territoire agricole. Ces gens-là ont été élus pour le développement économique de leur milieu, mais quand on pense au bien fondé de sauver notre garde-manger, parce que le territoire agricole, c'est l'outil pour vraiment développer une autonomie et une souveraineté alimentaire. Et pour moi, la meilleure souveraineté, c'est pas d'avoir une armée qui nous défend, mais d'être capable de se loger, de se vêtir et de se nourrir. Et ici, au Québec, on a la chance d'avoir une loi. Il faut que cette loi-là soit rigoureuse et forte et qu'on travaille de façon très étroite avec le milieu municipal pour trouver d'autres façons de faire que de gruger le territoire agricole.
La Fédération québécoise des municipalités souhaite cependant une révision de la loi. Son président Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley.
Quand on parle de la loi de protection du territoire agricole, moi je pense qu'il est temps qu'on la revoie. Ça fait plus de 40 ans qu'elle est en place. Mm-hmm. Il s'est passé des choses. Puis les exemples qu'on me donne toujours, on parle des communautés urbaines, soit Montréal, soit Québec. Mais on ne parle pas de l'entièreté du Québec dans cette protection-là. Là, il y a 40 ans de vécu dans cette loi-là. Il est le temps de la revoir. Il est le temps de voir ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait de bien, puis les endroits qu'on se rend tous compte qui n'ont même pas eu d'impact ou ce que ça s'est agrandi quand même. Quand on parle des centres d'achat, des lieux, bien, on est obligé de constater qu'ils sont là quand même en place, dans ces terres-là qu'on disait vouloir protéger. Ça a passé par-dessus. Ça fait que si quelqu'un me dit que ça l'a protégé, puis quand que je vois à d'autres places, dans des villages, où ce qu'on ferme des écoles parce qu'il faudrait rajouter deux ou trois maisons, réellement deux ou trois maisons, mais on ne peut pas l'agrandir, notre périmètre urbain, puis que depuis 1978, il n'y a pas une maison qui s'est rajoutée à Sainte-Catherine-de-Hatley dans ce périmètre-là, bien, je fais, OK, si on ne le revoit pas, il va falloir pas toujours me donner comme exemple l'endroit où ce que ça fonctionne pas. Près des grands centres, je pense que si on n'est pas prêt à la revoir, on ne peut pas constater présentement qu'elle a eu force qu'elle devait avoir à ce moment-là.
Pour le professeur de l'Université Laval, Patrick Mundler, il faut différencier périphérie urbaine et milieux ruraux.
Je pense que la loi, elle a permis de protéger le territoire agricole dans les zones urbaines. Sans doute imparfaitement, mais je pense que sans la loi, on n'en serait pas à ce qu'on en est aujourd'hui. Dans les municipalités rurales, il y a un problème de croissance. Une ferme, elle sait que pour vivre, elle doit croître, mais on ne reconnaît pas ce droit-là aux municipalités, puis il y a quand même un problème.
Pour le géographe et professeur honoraire à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, Bernard Vachon, la disparité d'application de la loi de protection du territoire agricole est flagrante.
La loi sur la protection du territoire agricole a eu globalement des bénéfices considérables pour la société québécoise. Cependant, je pense qu'on est ici aujourd'hui principalement pour traiter des lacunes, des déficiences après un vécu de 40 ans de cette législation majeure. Cette loi, lorsqu'elle a été adoptée, elle a fait l'envie de l'ensemble des provinces du Canada et de plusieurs pays étrangers. Pourquoi? Parce qu'elle s'attaquait à un problème majeur qui était celui de la dilapidation des terres, notamment des terres agricoles, des terres à bon potentiel agricole, et aussi qu'elle allait mettre un frein à l'étalement urbain. Et tous les pays, on pense à la France, à l'Allemagne, à l'Angleterre, sont confrontés à ces problèmes sans pouvoir intervenir. Dans les semaines qui ont suivi l'adoption du premier décret qui se limitait à la vallée du Saint-Laurent de l'Outaouais là, jusqu'à Montmagny, qui empêchait toute subdivision, qui empêchait toute autre forme d'usage que celle de l'agriculture, qui empêchait l'abattage des érables, qui empêchait le prélèvement des sols agricoles. Alors, effectivement, la loi telle qu'elle a été conçue, c'est un bijou législatif. Or, l'expérience de l'application de cette loi nous a démontré plusieurs lacunes, non pas dans le comportement de ceux et celles qui avaient à l'appliquer, mais plutôt dans l'absence de règles qui auraient balisé davantage l'application de la loi. Vous me permettez de donner quelques chiffres, mais je pense que ça peut éclairer un petit peu la situation. Lors des travaux de la commission Pronovo, on a signalé que chaque année, le Québec perdait 4 000 hectares de bonnes terres agricoles. Et que pour la seule communauté métropolitaine de Montréal, de 2007 à 2009, on avait perdu 826 hectares, soit l'équivalent de 1 543 terrains de football, de bonnes terres agricoles. Alors, selon les estimations qui ont été réalisées dans le cadre du plan métropolitain d'aménagement, il y a des espaces disponibles dans la communauté métropolitaine de Montréal, des espaces disponibles pour le développement résidentiel pour 10 à 15 ans. Alors, comment se fait-il qu'on doive piger dans les meilleures terres agricoles pour assurer le développement résidentiel, commercial et industriel requis par la croissance de Montréal alors qu'il y a tant d'espaces disponibles? Alors, vis-à-vis de cette réalité, on a compris à la communauté métropolitaine de Montréal que la commission, peut-être, n'était pas l'organe principal pour assurer la protection des terres agricoles. Si bien que, à la communauté métropolitaine de Montréal, on a pris unilatéralement la décision d'adopter des mesures plus sévères que la loi sur la protection du territoire agricole. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a là matière à réflexion. Partant d'une loi extrêmement sévère, on en est arrivé, après 40 ans, à constater que les meilleures terres agricoles du Québec faisaient l'objet là, d'un espace comparable à un fromage gruyère plein de trous, c'est-à-dire des espaces parfois limités où on a autorisé le développement non agricole. Et ailleurs, la politique ou la loi sur la protection du territoire agricole s'est appliquée bien souvent dans une sévérité absolument inacceptable, ce qui oblige aujourd'hui à reconsidérer les règles d'application de la loi sur le zonage agricole.
Les propos de Bernard Vachon font réagir Régent Saint-Pierre, ex-commissaire à la Commission de protection du territoire agricole.
J'ai devant moi ici, pour la région de Montréal, la région 06, que les exclusions depuis la révision de la zone agricole, qui date de 91-12, quelque part par là, il y a eu 51 hectares qui ont été exclus. Quand on nous parle de multiplication de terrains de football, ces chiffres-là, c'est bien entendu que quand on veut arriver à un résultat, on peut... je vous parle d'exclusion qui était sortie de la zone agricole. Mm-hmm. C'est bien entendu que s'il y a eu des autorisations aussi pour faire des gravières, pour des autorisations, pas des exclusions, là, mais des autorisations. C'est bien entendu que quand on parle de gravières, on parle tout le temps d'un retour à l'agriculture par la suite. Puis il y a eu des autorisations partielles aussi, il y a eu des autorisations limitées dans le temps. Par ailleurs, quand j'entendais parler tantôt M. Demers, quand il parlait des centres d'achat, on parle sûrement du quartier 10-30. Mais le quartier 10-30 avait été négocié, lui, pendant la révision de la zone agricole dans les années 90. C'est tout le temps facile de casser du sucre sur le dos de la commission, là, mais faut quand même dire qu'elle fait son travail. Puis j'entends dire aussi M. Vachon dire que la commission est extrêmement sévère, puis d'un autre côté, elle autorise beaucoup. Alors, je pense qu'il faut essayer d'être objectif dans les avancées qu'on sort.
Ces terres-là ne devraient pas être protégées, mais de façon blindée.
Eh bien, elles le sont protégées. Elles le sont protégées. Elles font partie de la zone agricole actuellement. Maintenant, pour les sortir de la zone agricole, le promoteur qui et la municipalité ou la MRC, devra démontrer qu'il n'y a pas d'espace ailleurs en zone agricole, hors de la zone agricole, pour faire du développement résidentiel.
Ça se construit pareil, je veux dire.
Actuellement, quand ça se construit, il faut que ça se construise hors de la zone agricole ou quand c'est autorisé.
Si vous prenez votre automobile, puis vous partez, mettons, oui, de Sainte-Julie jusqu'à Montréal, de Montréal, oui, jusqu'à Saint-Jérôme, je veux dire, ça prend deux, trois générations. Vous ne pouvez pas dire que ça ne s'étend pas, là. Fait qu'à un moment donné, c'est... oui, il y a une loi, mais je ne la comprends pas, la loi, là. Comme citoyen, moi, ce que je vois, c'est des bâtisses poussées sur les meilleures terres agricoles.
Est-ce qu'ils sont en zone agricole?
Par décision de la CPTAQ ou lors de révision de la zone verte, il reste que de grandes superficies de bonnes terres sont ouvertes au développement. Jacinthe Gagnon de l'UPA de la Capitale-Nationale voit dans la loi actuelle assez de souplesse pour satisfaire les besoins du monde agricole. Elle parle particulièrement de l'article 59 de la loi.
Il y a 18 municipalités dans la MRC de Portneuf. On ne s'est jamais chicané avec la MRC et on était d'accord de corriger certaines erreurs du passé et on a négocié les articles 59. Mais les articles 59, c'était sans que les fondements puis les valeurs intrinsèques soient touchés. Donc, les maisons qui se construisent sont transparentes et la loi n'a pas été affectée par ces autorisations-là. Quand il manque du monde, puis on est conscient que quand il manque du monde dans les autobus et dans les rangs, puis je dis toujours aux gens, si vous voulez du développement économique dans mon milieu, conservez le secteur agricole, parce que ça permet et c'est structurant pour le développement de vos milieux. Et ces gens-là s'impliquent politiquement, ils s'impliquent dans leur communauté, ils développent des services dans leur communauté, puis ils travaillent à faire en sorte que il y a de meilleurs services dans la communauté. Donc, moi, il n'y a personne qui est contre la vertu. Moi, je suis d'accord que ça prend, quand il y a un autobus qui passe dans un rang, ça prend des enfants qui vont à l'école, parce que j'ai fait des batailles pour les divisions multiples dans les écoles quand mes enfants étaient tout petits. Et je peux juste vous dire que c'est un défi de chaque jour. Mais ce n'est pas une modification à la loi qui va régler tous ces problèmes-là. C'est une multitude de petites actions qui vont faire en sorte qu'on va corriger le tir.
Jacques Demers de la Fédération québécoise des municipalités voit aussi des vertus à l'article 59, qui a cependant ses limites.
L'article 59, c'était de façon générale les terres de 10 à 99 hectares qui n'avaient aucune bâtisse déjà dessus ou les îlots déstructurés. Il y a deux éléments dans l'article 59, c'est ces deux-là. Puis c'est vrai que c'est une des très belles exemples où ce que les gens localement sont capables de s'asseoir. Puis même chose pour chez nous, quand on le fait, c'est pour montrer que les territoires sont capables de se prendre en main. Puis au lieu de parler de protection du territoire agricole, on parle de développement. Le PDZA, là, c'est pour développer la zone agricole.
D'occupation du territoire, finalement.
Oui, d'être là puis d'être actif avec. Puis les gens localement, ce que Mme Gagnon explique, c'est exactement ça qui se passe sur le territoire. Puis ça, c'est très efficace. C'est, je pense, une belle façon de voir notre territoire.
Mais l'agricultrice alternative Fernande Ouellette voit autrement les restrictions de l'article 59.
Les îlots déstructurés. Et quand j'entends îlots déstructurés, chaque fois, je me dis, dès qu'on reconnaît un îlot déstructuré, on ne reconnaît plus son potentiel agricole. Alors qu'il monte en ce moment un nouveau genre d'agriculture qui peut très bien s'intégrer dans les îlots déstructurés et les valoriser. Donc, de considérer les nouveaux modèles agricoles qui sont émergents à plus petite échelle, très près de la communauté, comme étant des outils qui permettent aussi d'offrir une meilleure qualité de vie pour les gens qui vivent dans ces milieux-là. Si les municipalités commençaient à le considérer de la sorte, on n'essaierait plus de faire de ces îlots déstructurés un parc de développement domiciliaire uniquement. On essaierait d'avoir une meilleure cohabitation entre l'agriculture et les citoyens. Puis si on ne travaille pas de façon stratégique pour en arriver à ça, on peut difficilement prendre un air surpris quand les gens sont déconnectés de la réalité agricole, si jamais on encourage la cohabitation.
Effectivement, si la loi n'est pas assez souple, elle ne permet pas de suivre l'évolution de l'agriculture et ne soutient pas sa diversification. Patrick Mondler de l'Université Laval.
Quels sont les critères de décision? Il y a 11 critères qui sont dans l'article 62, je passe les détails. Il y en a un qui s'appelle l'homogénéité de la communauté et du territoire. homogénéité de la communauté. Donc ça veut dire, si je le traduis vraiment très littéralement, si on fait de la vache laitière, on continue à faire de la vache laitière. Et puis, on a quelque chose avec la taille des parcelles. On ne peut pas diviser un lot en dessous de 5 hectares. Moi, je m'intéresse à la vente directe, aux petites fermes qui développent des choses nouvelles, etc. Je ne serais pas étonné que je vous dise que j'en connais qu'un certain nombre qui s'en sortent avec moins de 100 hectares. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans les décisions de la Commission, c'est qu'au fond, elle fait un peu jurisprudence avec des choses anciennes. Et il n'échappe pas dans les décisions à une représentation de ce qu'est l'agriculture, la vraie agriculture. Et ça pose problème parce que l'agriculture, elle change. Et donc, quand je lis, puis c'est texto, hein, dans un jugement de la Commission qui dit « Qui a envie de faire de l'agriculture sur 4 hectares ?» Point d'interrogation. Moi, je sais que si on pose la question, il y en a qui disent « Moi, j'ai envie de faire de l'agriculture. »
Bien sûr.
Voilà. Mais ça, c'est un motif de refus, de prendre un petit lot, puis j'ai un cas en tête de quelqu'un qui était sur une parcelle de 4 hectares, sur une ferme qui en faisait 296, sauf erreur de ma part, puis il dit « Est-ce que je pourrais acheter les 4 hectares ?» Ben, la réponse est non. Donc, est-ce qu'il faut changer la loi ? Peut-être pas. Mais il faut sans doute trouver les moyens de prendre en compte aujourd'hui l'évolution de l'agriculture. On sent qu'il y a besoin d'une évolution. Il y a quand même au milieu rural des MRC, des municipalités qui sont à 96% au territoire agricole. Il ne leur reste strictement pas grand-chose. Il faut quand même regarder ça. Alors, vous avez dit, on discute, et puis on n'est pas idiot, puis je le sais. Voilà. Mais on comprend que n'importe quelle entreprise vous dit, moi, je ne peux pas rester comme ça, stagnant. Il y a un moment, il faut que ça bouge. J'ai besoin de croissance pour vivre, parce que le monde change autour de moi, puis c'est normal. Mais je pense que les municipalités, quelque part, les municipalités rurales, encore une fois, qui sont confrontées à des problèmes de dynamique démographique, des problèmes de développement économique, ben, il faut leur donner un peu d'air. Parce que moi, j'aime pas dire militant, un chercheur ne doit pas être militant, mais je suis un défenseur du développement rural. Et d'un point de vue du développement rural, on peut faire plein de choses. Des fois, ça va s'éloigner peut-être un peu de l'agriculture, puis ça y reviendra.
Ici Lionel Levac. Très bientôt, je reviendrai sur ce sujet, la protection des terres agricoles, ses avantages et ses contraintes. Au revoir.